Salut, bienvenue dans Igloo, le Mac de l'habitat. Cédric Simonin, bonjour.
Bonjour Eric.
Cédric Simonin est toujours le Master of Ceremony.
Toujours.
D'Igloo, et aujourd'hui nous recevons Carlos Moreno.
Oui.
Alors on se le disait, on a toujours un Carlos Moreno dans notre vie.
Oui.
Il y en a un peu partout dans le monde, mais on a trouvé le vrai.
Ah, le vrai, le bon là.
Et le vrai, il est là.
Depuis le temps qu'on parle de lui, dans l'émission Igloo.
On l'attendait. C'est un honneur de vous recevoir, monsieur. Vous êtes né en Colombie en 1959. Vous êtes arrivé en France à l'âge de 20 ans. Aujourd'hui, vous êtes professeur des universités, expert international de la Smart City humaine, expert ville, territoire de demain et chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur, dont vous êtes très très fier. Un parcours exceptionnel. Vous dites que c'est votre chemin. Vous êtes un humaniste, un passionné, un visionnaire, créateur du concept mondialement reconnu de la ville du quart d'heure. Nous vous proposons aujourd'hui une petite émission, même une grande émission.
Une émission spéciale
si... Ouais, faites comme si vous étiez chez vous, c'était une émission spéciale. Effectivement, pour parler des solutions pour relever le triple défi économique, écologique et social de la ville de demain. Dans le cadre de cette émission, donc, nous nous interrogerons sur nos rapports à nos espaces de vie et au temps utile, Cédric Simonin.
Oui, et je vais commencer par montrer le livre de Carlos Moreno.
Ouais.
Hein, ça fait une émission un peu littéraire, mais j'espère qu'on le voit bien. Et dans ce livre qui s'appelle « Le droit de cité », vous donnez votre vision d'une ville polycentrique dans laquelle les 6 fonctions essentielles, c'est-à-dire habiter, travailler, s'approvisionner, se soigner, s'éduquer, s'épanouir, doivent être accessibles dans un périmètre de 15 minutes. Alors avant de rentrer dans le détail et pour donner un peu plus d'explications par rapport à cette ville du quart d'heure, on vous appelle souvent le pape ou le gourou de la Smart City. Vous assumez ?
Oui, on m'appelle comme ça, et pape ou gourou, ou quoique, voilà, il y a peut-être le Dalai Lama. Peut-être.
Vous êtes en concurrence alors avec le Dalai Lama.
Il y a la concurrence dans le domaine. Hein. Mais en fait, tout ce qui m'intéresse, c'est porter une vision, me battre pour mes idées, j'ai des convictions fortes, j'ai... m'appuie donc sur mes travaux scientifiques. Et vous savez, il y a des moments où on a une grande solitude quand on veut faire de la disruption, quand on veut poser des idées nouvelles. Et cette grande solitude, comme tous les chercheurs, je les ai vécues aussi. Et donc ensuite, il y a un moment où les idées commencent à perfuser et ça devient intéressant. Il y a un moment où ça crève le plafond de verre, comme on dit, et comme ça se passe maintenant avec ces concepts de la ville des quarts d'heure, et ça devient mondial, voilà. Donc c'est tout simplement mon travail, voilà, qui je mène avec patience, avec persévérance, avec une équipe aussi, voilà. Donc,
un travail qui a beaucoup évolué grâce à la loi Allègre, si je ne me trompe pas, parce que depuis, vous avez pu créer une société, et donc collaborer et contribuer à beaucoup, beaucoup de projets.
Oui, parce que je fais partie...
La loi Allègre qui autorisait les chercheurs à créer une entreprise.
Exact, en 1981, ça s'appelle la loi de l'innovation. Et c'est vrai que je fais partie d'une catégorie des chercheurs, maintenant c'est plus courant, chez les anglo-saxons, ça existait depuis longtemps, mais en France, on était appelé des chercheurs atypiques. C'est-à-dire que, mais concernant... Et j'ai toujours eu la passion, effectivement, de dépousser les frontières, hein, dans tous les sens physiques et figurés, hein, mais également de mettre à l'épreuve les idées. Et la meilleure manière de les mettre à l'épreuve, c'est essayer de transformer nos vies quotidiennes d'une manière ou d'une autre. Et pour ça, on ne peut pas les faire strictement avec des publications scientifiques, des revues, qui sont parfois difficiles à lire, réservés pour un petit groupe, ce qu'on appelle les pairs, donc nos confrères qui nous jugent, qui nous donnent des points, etc. C'est agréable et sympathique. Mais si on veut vraiment changer les choses, il faut aller sur le terrain. Et donc, c'est parce que j'ai mis mes idées à l'épreuve qu'on m'a dit certaines choses que j'avais développées. Et donc, à la fin des années 90, les présidents de l'université m'ont dit « Carlos, ton truc intéresse beaucoup de monde, il y a une loi qui sort, ça sera peut-être bien qu'au niveau de notre laboratoire de recherche, unité mixte de recherche au CNRS, on puisse montrer que nous, on contribue aussi à l'essor économique et à changer la vie des gens. » Et donc, je suis un homme des challenges, comme on dit, un homme des défis.
Et on ne va pas citer tout ce que vous avez fait, parce que ça serait énorme, il faudrait une deuxième émission. Juste une question avant la prochaine question de Cédric. Êtes-vous un homme optimiste ?
Oui, oui, je suis toujours optimiste, hein, parce que je fais partie, vous avez la chanson de Pierre Barou, les cabarets de la dernière chance, où on dit, il y en a qui vivent les yeux fermés, il y en a qui rêvent les yeux ouverts. Ouais. Moi, j'ai fait partie de la catégorie des jeunes de Pierre Barou.
On ne va pas vous demander de la chanter.
Les yeux
fermés, si
je chante.
Je peux suivre.
Je chante très, très, très mal.
Si vous permettez.
Oui. Hein, voilà. Mais c'est un clin d'œil. Donc,
de la dernière chance. C'est ça.
Oui, ouais. Ouais, tout à fait. Ouais.
Cédric.
Vous êtes trompé d'émission.
Chanté par Oscar Castro, qui vient de décéder malheureusement du Covid. Oscar Castro est un réfugié chilien qui a créé le théâtre Aleph à Paris. Et donc, c'est lui qui a créé les cabarets de la dernière chance, qui était un texte de Pierre Barou pour Oscar Castro. Et un hommage à lui, puisqu'on en a parlé l'été dernier en Corse lors d'une réunion dans laquelle de travail, quand on parlait de la ville, on a parlé du cabaret Les Dernières Chances. Et en rentrant, parce que j'ai écrit mon livre en Corse l'année dernière, vous verrez que le chapitre 4, je l'ai changé entièrement pour rendre hommage à Pierre Barou et au cabaret Les Dernières Chances. C'est le début du chapitre 4.
Pierre Barou, c'est aussi les films de Lelouch, c'est magnifique.
Enfin, et je vais vous couper.
Allez-y,
à la chanson aux chansons.
Allez-y, allez-y.
Donc, si vous permettez, on va juste revenir sur les thèmes qui nous intéressent.
C'est juste pour dire qu'il y a ceux qui vivent donc les yeux fermés et ceux qui rêvent les yeux ouverts.
Voilà.
Parce que ça nous permet de voir le monde et donc en rêvant que certaines utopies puissent devenir dans une infime partie une réalité. Et cette infime partie, elle contribue déjà peut-être à changer une certaine manière de vivre et d'agir. Et c'est ça ma passion.
Alors la transition, elle est toute trouvée. J'ai une question très généraliste, pour revenir vraiment sur le sujet. Peut-on encore faire quelque chose par rapport aux enjeux climatiques?
Oui, vous avez les climats. Et aujourd'hui, nous vivons une situation très délicate, puisque le 1er juin, l'Organisation météorologique mondiale a publié un rapport qui dit, dans les 5 années qui viennent, on va connaître des pics de 1,5 degré. Et pour les auditeurs, je rappelle que 1,5 degré d'augmentation de température, donc c'était ce qu'il fallait éviter avant 2050. Et donc, on aura des pics. Et pour ceux qui suivent les travaux du GIEC, donc le groupe intergouvernemental d'experts pour le climat, donc en anglais, les IPCC, et il y a les premiers rapports préliminaires qui ont défrayé les chroniques, mais en disant que donc, nous étions dans ces situations extrêmement délicates, dans une trajectoire entre 1,5 et 3 d'ici 2030. Et pour ceux qui suivent les actualités, regardez ce qui se passe actuellement sur le sud-ouest canadien et le nord-ouest américain. Vous avez des températures quand même qui atteignent actuellement 47,8 et qui n'ont jamais été vus. Parce qu'il y a un dôme climatique qui s'est installé. Et donc, nous allons de plus en plus vers des incidents extrêmes. Donc, si on garde une partie d'optimisme, parce que nous devons l'être, ça veut dire que le compte à rebours a commencé. J'ai eu l'honneur de participer à une initiative mondiale avec des grandes personnalités, donc le secrétaire général de l'ONU, les princes William et le pape, donc François Ier. J'étais les seuls Français, on était 40, et on a appelé cette initiative Countdown, le compte à rebours. Mmh. Et donc en disant, we have no time, on n'a plus assez de temps. Mais il y a encore un petit espoir pour que, pas nous, mais la génération qui vient et celle d'après, retrouve une partie de la planète vivable. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que la planète, de plus en plus, va se rétrécir en habitat. Vous savez, les Grecs appelaient ça l'écoumène. J'en parle dans mon livre. L'écoumène, c'est est-ce qu'on est capable de découvrir. C'était Aristotèle, au 4e siècle avant Jésus-Christ, qui disait l'écoumène, c'est ce que nous, on peut voir au fur et à mesure qu'on découvre. Ben, on est en train de vivre l'écoumène à l'inverse. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une planète dans lesquelles on va de plus en plus rétrécir les zones habitables, avec tous les phénomènes qui vont aller avec, donc difficultés pour cultiver les terres, inondations, submersion des zones côtières, extrêmes événements météorologiques, donc déplacements climatiques. Aujourd'hui, il y a plus de déplacements climatiques que déplacements par des faits de guerre.
Ça a déjà commencé.
Il y a des guerres.
Ça a déjà commencé.
Je l'ai dit aussi. Et donc, nous serons, nous, peut-être un jour des placites climatiques. Je l'ai dit quand on a travaillé en région Grand Est pour les SRADET, le schéma régional d'aménagement et développement durable des territoires. La région Grand Est a été les premiers territoires à avoir voté un Sraddet. Je me suis investi énormément à la demande du président Jean Rottner, qui est toujours président, que je salue s'il m'écoute, quelqu'un d'absolument remarquable et formidable. Et donc, je disais au maire, quand on a développé cette Sraddet, que la région où nous sommes ici, les Grands Est, c'est la région de France qui sera la plus touchée par les changements climatiques. Les études du GIEC, de ce qu'on appelle les scénarios 1B, c'est-à-dire entre 1,5 et 3 degrés, donnent à l'horizon, donc en 2030-2040, des pointes de température à 51,5 degrés si nous sommes dans ces scénarios. Parce que nous sommes dans un plateau continental donc sec, et donc il y a urgence aujourd'hui, parce que l'inertie est très forte, pour réduire l'émission de CO2, et pour cela, il n'y a pas de photo. Il faut changer nos modes de vie. Voilà, c'est la seule solution.
En parlant de changement de mode de vie, on sait que 80-90% de la population mondiale vivra dans les villes à échéance. Vous avez parlé des enjeux d'une ville intelligente. Est-ce que vous pouvez décliner ce que ça veut dire, ces enjeux-là ?
Vous avez la ville intelligente, c'est un concept sur lequel j'ai travaillé. Et donc, on va dire dans les années 2000, parce que je viens du monde des mathématiques et de l'informatique. Tous les gens pensent que je suis architecte. Parce que j'ai eu la médaille de la prospective de l'Académie d'architecture. Il y a des gens qui pensent que je suis urbaniste, qui arrivent beaucoup sur les villes. Il y a des gens qui considèrent que je suis sociologue, parce que je m'intéresse beaucoup à la phénoménologie de l'exclusion sociale. Il y a des gens qui pensent que j'ai fait des études climatiques, parce que je parle des problématiques climatiques. Mais en réalité, donc, je viens des mondes des mathématiques et informatiques. Et donc, quand on a vécu cette espèce de révolution de l'Internet dans les années 2000, qui est venue donc, s'étendre de manière fulgurante sur la planète, bien sûr, donc, j'ai été outillé et armé, parce que j'ai travaillé déjà sur ces problématiques de la complexité de la technologie qui traverse donc, la manière de gérer nos bâtiments, de gérer nos vies. Et donc, la ville intelligente, en fait, quand j'ai développé là-dessus, des outils, c'était des plateformes numériques qui nous permettent de mieux anticiper ce que pouvait se passer au niveau d'infrastructure. Mais après, il y a eu un gros business en 2010 qui a été mené par des grandes compagnies américaines qui ont trouvé un filon qui était de venir nous dire « Vous inquiétez pas pour les villes, voilà, vous allez prendre tel logiciel, telle plateforme et avec ça, on va vous résoudre les problèmes de circulation, les problèmes d'insécurité, les problèmes de pollution. » Et donc, on a eu une espèce de leurre collectif dans lequel on nous faisait croire que la technologie appelée Smart City allait changer la vie. Donc, j'ai été dans ces mouvements, et puisque j'ai créé une start-up qui a développé des technologies assez pionnières, qui a été acheté par un grand groupe français.
Synovia, c'est ça ?
Oui, c'est ça, Synovia, qui a été acheté par un grand groupe français mondial et qui a porté donc, mes travaux. Mais moi-même, concepteur de cette technologie, donc, j'ai déposé un des premiers brevets au monde sur justement les technologies pour gérer mieux le bâtiment et les grappes des bâtiments donc, à l'échelle de la ville. Moi-même, j'ai compris qu'on était en train d'atteindre un plafond de verre qui était celui d'une technologie qui vient nous asservir plutôt que de nous libérer. Et c'est pour ça que j'ai préféré quitter le domaine de la Smart City pour quelque chose que j'ai appelé la Human Smart City, la Smart City humaine, qui m'a amené sur le chemin de mes retrouvailles avec Jane Jacobs, avec des activistes américains, donc de la ville qu'on appelle la ville vivante. Et c'est là où j'ai créé le concept de Living City, c'est-à-dire une ville vivante, une ville dans laquelle l'humain soit au cœur, non pas la technologie. Et je vous invite à lire, les auditeurs, et Bernard Stiegler, philosophe français, est décédé malheureusement l'été dernier, et Bertrand Stiegler, il avait proposé donc un mot du grec, qui est le mot pharmakon, pour la technologie, en disant un pharmakon, c'est en même temps un remède, et en même temps un poison. Et il avait dit, la technologie, c'est ça, c'est un pharmakon. Donc j'ai essayé, par la suite, de ne plus m'inscrire à définir est-ce que c'est une ville intelligente, je me suis plutôt intéressé à définir est-ce que c'est une ville heureuse avec des citoyens heureux.
Parce et c'est pour ça que vous l'avez appelée ville vivante ?
Oui, c'est ça.
Et vous l'avez décliné en disant elle est à la fois incomplète, imparfaite et impermanente.
Oui, exactement. Exactement, parce que Jane Jacobs, j'invite aussi à lire Jane Jacobs, c'était une activiste américaine dans les années 60, elle était d'origine canadienne, et elle a été vraiment cette figure qui a été engagée pour développer donc l'inclusion sociale, la mixité sociale, la ville compacte, pour que la ville ne soit pas en proie à la minéralité, aux voitures, au diesel, au plastique, au caoutchouc. Vous savez, la ville s'est bâtie par trois éléments qui étaient les bétons, donc les caoutchoucs dans toutes ces formes-là, et l'essence. Hein. Donc, puisque c'est comme ça que les villes ont été construites, on a bétonné, on a bitumé, et on a mis des voitures dedans pour que les gens se déplacent, puisqu'on a créé des temporalités donc, pour que les gens puissent arriver d'un point à l'autre, donc en conduisant, parce que c'était un signe de pouvoir. Mais en réalité, on a perdu des vues que la ville, depuis 4000 ans, donc on peut remonter en Mésopotamie, Ur, la première ville. Je commence mon livre en décrivant tous ces vallées dans lesquelles les gens se mettaient, parce que la ville a toujours été associée d'abord à des groupements pas loin de l'endroit où il y avait des lots, donc ce qu'on appelle des vallées, parce que ça faisait partie de la vie. Et donc la ville a été avant tout un lieu vivant. Et donc et c'est pour ça que quand on dit que la ville est vivante, donc qu'on la ramène à l'équivalent d'un organisme, ça veut dire qu'elle a comme nous tous un métabolisme, ça veut dire qu'elle doit respirer, et comme chacun de nous tous, donc nous sommes imparfaits, hélas, hein, je vous déçois, mais bon, voilà.
À part Cédric Simonard. Mais...
voilà. Nous sommes incomplets, on est toujours en développement, voilà, et on est fragile, on appelle ça l'impermanence dans les... Dans la philosophie orientale, bouddhiste, voilà, on appelle ça l'impermanence. Ça veut dire qu'on est là, et ben on peut ne pas être là. Je l'ai dit souvent, il n'y a rien, Sophie, pour dérégler une ville. Je l'ai dit depuis 10 ans. Vous regardez, à moins que rien, c'est-à-dire 130 nanomètres. C'est la taille du virus SARS-CoV-2 qui a généré la pandémie mondiale de COVID-19. 130 nanomètres. Vous savez qu'un nanomètre, c'est un cheveu posé sur la Terre et vu de la Lune, hein. Donc pour donner un peu la taille de ce qu'elle représente. Donc, voilà. 130 nanomètres a mis la planète en échec, l'économie mondiale par terre, et les villes ont dû s'apaiser et se calmer. Donc l'imperfection, l'incomplétude et la fragilité propre au vivant s'appliquent à la ville. Et c'est pour ça que moi, je trouve que les gens qui hurlent en permanence, disent « Ah ouais, dans ma ville, il y a tel truc qui n'a pas été réparé », ils prennent des photos, ils disent « Mais c'est toujours dans toutes les villes, partout dans le monde. » Et il y a des choses qui ne sont pas finies, des choses qui doivent évoluer. Ouais. On fait aujourd'hui, on livre aujourd'hui quelque chose qui demain sera périmé, parce que voilà, on passe.
Alors justement, vous avez parlé de gouvernance. Quelle est la part de responsabilité des pouvoirs publics, ou plus peut-être pouvoirs politiques plutôt?
Ah,
plutôt politique.
Pas la même chose.
Non, politique.
Il y a le pouvoir public qui, effectivement, exerce, dans un certain cadre formel, réglementaire. Et ensuite, il y a les pouvoirs politiques. Vous savez, moi, j'essaye également dans mon livre je suis passionné des mots, j'adore les mots, j'adore écrire. Hein, et donc, les racines des mots sont très importantes. Parce que parfois, on les oublie. Et donc, police, en fait... Et c'est pour ça que j'ai appelé mon livre « Droit de citer », parce que c'est les mêmes mots. « Citer », c'est en latin, « police », c'est en grec. Mais « police », et je cite donc Aristote dans mon début de texte, parce que Aristote disait « Les communautés des hommes et des femmes qui s'agroupent sont des animaux politiques. » Donc, puisque les animaux politiques, c'est ça qui est différent, c'est-à-dire, on le dit dans l'extrait que j'ai mis, et c'est ça qui nous différence des abeilles, ça qui nous différence des moutons, ça qui nous différence des ânes, hein. Et parce que nous avons donc cette capacité en tant qu'hommes politiques, qu'animaux politiques, de partager un territoire et de fixer des règles communes qui représentent la base qu'on doit respecter. À l'époque, il y avait l'esclavagisme, il y avait ceci ou cela, voilà. Mais il y avait aussi la démocratie et les droits de parler. Donc, il faut retourner à la source des pouvoirs politiques, qui est le pouvoir de définir un certain nombre de règles, explicites ou implicites, formelles ou tout simplement informelles, ou des accords tacites, qui permettent de réguler, de gérer la manière comme des hommes et des femmes partagent un espace vital, qui est un territoire et dans lequel donc ils sont décidés de l'aménager ensemble, voilà. Et donc le pouvoir politique, c'est le pouvoir donc de choses partagées, c'est le pouvoir de lois partagées, c'est le pouvoir donc de lieux dans lesquels on peut générer une manière de vivre qui doit nous amener à ce que j'appelle donc les droits de cité, les droits de police, c'est-à-dire les droits de pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle les communs. C'est-à-dire les communs, c'est tout ce qui est par rapport à un certain nombre de règles permet de définir ce que nous partageons tous et qui ne doit pas être au bénéfice de certains ou tout simplement être inaccessible parce que des lois et marchés qui sont venus nous imposer de manière spéculative nous en privent. Mmh. L'air, l'eau, le sol...
Carlos Moreno, quand je vous écoute, je me dis que la planète est en danger, on l'a bien compris, mais que notre démocratie aussi est en danger.
Vous avez tout à fait raison.
Et c'est peut-être d'ailleurs la base. Si on répare la démocratie qui est en train d'être cassée, est-ce qu'on aura plus de chances de sauver la planète ?
Vous avez tout à fait raison, parce que la démocratie, elle souffre. Donc, la démocratie, c'est un héritage grec également, donc Athènes, ouais. Avec... toute cette expression publique, hein, rappelons-le,
ça part de là.
Donc, l'agora, ouais. Donc, qui était les moyens
justement,
d'expression.
Justement, par rapport à l'agora, j'aurais pu rajouter le débat aussi. Le débat est en train d'être
complètement nié. C'est ma réponse.
Ouais, c'est ça, pardon.
C'est que la démocratie n'a pas de lieu d'exister si l'agora n'existe pas.
Voilà.
Puisque la démocratie, elle s'exprimait au travers l'échange qui était dans l'agora, c'est qui avait le droit de parler, et qui pouvait donc exprimer une pensée, et ensuite elle était soumise à un vote, voilà. Et ça s'est construit comme ça. Donc la première démocratie européenne, en Islande, c'était ça, donc au bord des fjords, les gens se réunissaient, et ils exprimaient une pensée. Donc la démocratie, elle repose sur la base d'un échange, d'un respect, et de ce qu'on appelle l'altérité, c'est-à-dire... Mmh. Le respect de l'autre, parce que l'autre, il veut voir...
De la parole
donc,
de l'autre.
Ouais. Sa parole doit être respectée, même si on n'est pas d'accord, comme disait Voltaire, même si je ne suis pas d'accord avec vous, je me battrai pour que vous ayez le droit de parler. Mmh. Et donc, notre démocratie est en danger, parce que nous avons perdu également l'essence de l'altérité. Parce que nous avons perdu également l'essence de commun. Parce que nous avons perdu l'essence du police. Et qu'à l'échelle de la ville, de la cité, nous avons perdu également l'essence du respect de ce qui est matériel et immatériel et qui fait ce qu'on appelle la qualité des vies. Donc nous assistons à une dégradation du débat politique parce qu'il devient tout simplement une histoire de tous à l'égout. Donc voilà, donc on a fait la ville avec tous à l'égout et maintenant la démocratie, elle devient tous à l'égout. Donc,
mais on a un problème de temporalité aussi parce que construire une ville, ça nécessite... ou de faire évoluer une ville, je peux dire ça nécessite un minimum de 10, 15, 20 ans, 30 ans. Il faut avoir une vraie vision sur le temps. Et on a une temporalité liée à notre gouvernance, qui sont des temporalités courtes. Un mandat, c'est 6 ans, et l'objectif d'un élu, c'est d'être réélu. Donc généralement, il a une temporalité courte avec une vision de la ville qui doit être à temps long. Il n'y a pas quelque chose d'antinomique là, dans cette temporalité ?
Oui, c'est une réflexion qui est tout à fait pertinente, les temporalités des gouvernances. Qui ont engendré en fait un déni d'investissement par rapport au bien commun. Moi, je vous reprends, Cédric, quand on dit l'objectif d'un élu est de se faire réélire. Justement, c'est ça la première perversion du système. L'objectif d'un élu, c'est de servir pourquoi il était élu, d'accomplir un programme, de respecter les électeurs, de respecter le bien commun, de respecter les droits de la cité si nous parlons d'une ville, et les droits de la cité, donc c'est respecter également un certain héritage qui, au travers le temps, a permis de bâtir ce que nous avons. Et aujourd'hui, quand on dit l'objectif d'un élu, c'est quand même se faire réélire, on a déjà détourné le système, parce qu'on est en train d'assister à des élus qui seraient donc capables de changer leur programme pour lequel ils ont été élus, parce que peut-être ça permettra d'attirer telle ou telle fraction de la population qui, dans ces cas-là, votera pour sa réélection. Et donc, on le voit donc, dans la maladie de la démocratie, qui est en fait cette prise de distance par rapport aux acteurs de la ville, par rapport donc, aux citoyens, et qui la renvoie bien aussi, parce qu'il y a une désaffection quand vous avez des élections et qu'il n'y a même pas 20% des inscrits qui sont électeurs. Ça veut dire qu'on est en train de renvoyer un message sur le fait que cette espèce de détournement du système et du pouvoir politique public issu du vote est malade et il demande d'être revu. Et moi, je pense que cette temporalité dont vous mettez bien les doigts sur le fait que ça peut poser un problème, et il faut au contraire que ça soit un atout. Mais la seule manière pour moi, c'est que cette démocratie se traduise non pas uniquement par une démarche élective où après, une fois que j'ai élu, c'est mon élu qui s'occupe de tout, il faut qu'il y en aille, non pas uniquement sur la démocratie participative, c'est-à-dire que les gens s'impliquent, l'importance dans les villes d'avoir des budgets participatifs, parce que ça permet d'impliquer les gens, mais que ça se transforme aussi en une démocratie d'action, c'est-à-dire que les gens soient eux-mêmes co-designers de la ville, d'où l'importance de la communauté urbaine, comme dirait le regretté Jaime Lerner, qui est mort il n'y a pas longtemps, donc l'ancien maire de Curitiba, qui a été vraiment à la pointe de ce qu'elle allait dire, des aiguilles de la culture urbaine, l'urbanisme tactique, l'urbanisme temporaire, l'urbanisme de réhabilitation avec les citoyens, tout ce qu'on appelle donc le placemaking, donc les places de poche, c'est-à-dire qu'on donne des espaces publics aux gens pour qu'ils les transforment d'une manière localisée et temporaire. Il faut réinventer, bien que ce soit un mot très galvaudé, la manière comme on vient faire participer les gens dans la vie active.
Ça, c'est une thématique que vous avez, que l'on retrouve très souvent dans votre, dans votre livre. Pour entrer là sur cette thématique, excusez-moi si j'appelle d'un concept, j'espère que le mot ne vous choquera pas, mais cette ville du quart d'heure. Maintenant, à celles et ceux qui nous écoutent, si vous avez expliqué simplement, en quelques mots, c'est quoi pour vous ce concept de la ville du quart d'heure? En quoi c'est ça a un intérêt pour les gens, ce principe-là?
Alors, je demande à celles et ceux qui nous écoutent de fermer les yeux un instant, et donc de se dire que une journée passée dans nos villes depuis les années 70, c'est une journée, quand on ferme les yeux, qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? Je me suis levé tôt, je suis parti travailler, et donc la moyenne, c'est 45 minutes des déplacements pendulaires, donc je traverse une ville d'un point à l'autre, les matins, je fais l'inverse l'après-midi, et ensuite je leur demande combien de personnes vous connaissez dans l'immeuble dans lequel vous habitez, et à combien de personnes vous dites bonjour, quelles sont les activités que vous faites avec tous ces gens-là, et quels sont les souvenirs donc, de la dernière animation que vous avez dans votre quartier. Et ensuite, donc, toujours en fermant les yeux, vous rappelez voilà, quels sont les actes d'achat que vous avez faits et qu'est-ce que est prioritaire quand vous avez à tout simplement vous prélasser et où est-ce que vous allez. Et quand je fais cet exercice-là dans des salles remplies de gens, etc., avec des petits papiers jaunes, rouges, verts, etc., et ben 80% c'est rouge, c'est-à-dire 80% des gens n'ont pas eu une activité locale. 80% des gens ne connaissent pas les endroits où ils habitent. Ils ne connaissent pas les voisins, ils ne savent pas qui est malade. Et pour faire des activités, ils se sont toujours déplacés plus d'une demi-heure. Voilà. Donc maintenant, j'ai dit, ouvrez les yeux et rêvons les yeux ouverts, donc Pierre Barou, clin d'œil. Puisque, j'ai dit, ce n'est pas le cas vers les dernières chances, c'est une chance à saisir d'échanger nos modes de vie. Parce que finalement, j'ai dit aux auditeurs, auditrices, nous sommes complices, nous tous, d'avoir accepté l'inacceptable. Nous acceptons d'aller au mur avec un changement climatique d'origine donc quoi, anthropique, on appelle ça l'anthropocène, hein, donc, depuis les années 2000, hein, quand les prix Nobel, donc Krugman a posé ces termes-là. Donc, nous sommes complices d'accepter des choses inacceptables. Mais au-delà, c'est un mode de vie que nous avons accepté. Nous avons accepté les vols les plus grands qui s'est produit dans l'histoire moderne. C'est comme si Houdini, les magiciens, est arrivé sur la ville, il aurait déployé une énorme cape rouge et il aurait dit abracadabra, enlevé le temps. Est parti.
Vous savez ce qu'on dit
sur on nous a volé le temps utile.
Dans chaque jeune, dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé. C'est un peu ça en fait.
Voilà.
Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé justement?
Voilà. On nous a volé le temps. On nous a volé le temps utile. Vous avez les Grecs. Je l'ai dit dans mon livre. Ils avaient trois temps différents qui correspondaient à trois représentations différentes. Le Chronos, les calendriers, celui des montres là. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Ah putain, il faut que j'y aille. Il y avait un deuxième temps qui étaient donc les kairos, Les kairos, vous savez, c'est un éphèvre, chauve, avec une longue touffe. C'est pour ça qu'on dit saisir une opportunité en français.
Ouais, c'est ça.
Parce que quand on est prêt dans l'acte de création, quand on est prêt à se transcender, à ce moment-là, donc on appelle ça l'acte créatif, les kairos, c'est ça. Et donc on dit saisir l'opportunité parce que ça veut dire qu'on prend la touffe de cet éphèvre qui a des ailes et il nous emporte avec lui. Donc la créativité, c'est pour ça qu'on dit saisir une opportunité.
Oui, mais pour saisir le kairos, il faut avoir une conscience qu'on n'a plus.
Et qu'on l'a perdu. Et le troisième, c'est l'aïon. Et l'aïon, c'est le temps de la spiritualité, c'est le temps de l'intimité, c'est le temps de la réflexion avec le cosmos, c'est le temps de savoir que nous sommes poussière d'étoiles, que nous sommes infiniment petits, que nous ne valons rien du tout, et que la seule chose qui mérite l'homme, avec un grand H, c'est ou se ramener à sa modestie, d'être infiniment petit ou de disparaître parce qu'il aura bien cherché, puisque la planète n'a pas eu besoin de nous, tandis que nous avons besoin de la planète. Mais on a perdu le temps utile. Donc, Houdini est passé, Kairos disparu, Aion disparu, on est resté avec les chronos, tout le monde avec une montre attachée, hop, et on y va. Et j'ai décrit dans mon livre comment ces processus du vol du temps s'est produit donc, par les taylorismes qui est venu imposer les bureaux de méthode. Et comme dit, et donc je l'ai dit dans mon bouquin, et la révolution industrielle, quand on dit pareil, les papiers jaunes et les papiers verts et les papiers rouges, la révolution industrielle, tout le monde dit c'est la machine à vapeur, c'est le moteur. Non, j'ai dit dans mon bouquin, c'est les cadences. Ça s'appelle les bureaux de méthode qui existent encore dans beaucoup d'entreprises industrielles. Parce que les bureaux de méthode, c'était quoi? C'était les ingénieurs qui décidaient les gestes que chaque opérateur devait accomplir dans un poste de travail.
L'état moderne de Charlie Chaplin.
Et il était cadencé, l'état moderne. C'est ça, ouais. Et ça, c'est la mesure du temps. Et c'est ça qui a été l'invention la plus importante qui a transformé nos vies. Donc, on est devenu prisonnier du temps. Et donc, on nous a dit, de toute manière, c'est pas grave, puisque maintenant, on est rentré dans un monde de production, de consommation. Le productivisme est arrivé. Donc, l'industrialisation est arrivée et on nous a vendu le fait que ce n'était pas grave à l'endroit où on était parce que la technologie viendrait toujours à notre secours. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés à cette situation désespérée où le temps n'a plus de notion des temps utiles. Nous sommes donc esclaves d'un temps qui est un temps de production, un temps de consommation et donc on ne sait plus. Voilà. Donc, à la ville du quart d'heure, c'est des réflexions en profondeur autour du temps, la manière comme dans nos villes, le temps a disparu. Comme dit Richard Sennett, qui m'a fait la préface, donc au London School of Economics et le UN Habitat, il dit donc on s'est retrouvé avec quelque chose d'extraordinaire, c'est que la distance est devenue un vice de notre modernité parce que c'est elle qui représente donc notre perte de temps. Et vous savez que la vitesse en physique, c'est distance divisée par temps, et que l'accélération, donc la distance par le temps au carré, voilà, on a été enfermé dans une formule dans laquelle on a dit « c'est pas grave, puisque vous connaissez les dictons en français, qui est « le monde appartient ainsi qu'il s'élève tôt ».
Ben oui.
C'est pas grave, vous habitez loin, vous travaillez loin, c'est pas grave, vous vous levez tôt. Il y aura toujours un métro, un bus, deux métros, oui. Trois bus, trois métros, une correspondance, c'est pas et on doit remercier que vous avez un travail. Remercier, parce qu'il y a tant de gens qui n'ont pas de travail. Donc on nous a vendu, à la place du temps utile, à la place de Kairos pour créer, pour faire la peinture, pour avoir une famille, pour dialoguer avec ses enfants, à la place du temps spirituel, pour avoir une cosmogonie, pour être un peu moins con dans la vie, peut-être pour être plus humble, pour ne pas être tous à l'ego. Et pour être plus en capacité d'avoir de la modestie, hein, voilà, on nous a vendu le fait de courir partout.
Et on
donc
on
a
mis
10 quarts d'heure.
Mais nous aussi on accélère, vous savez, le chronos tourne.
Voilà. Le chronos tourne.
Le chronos tourne.
Il va falloir conclure.
Voilà, voilà, tout ça à cause de l'industrie, franchement.
Voilà, la ville des quarts d'heure, du productivisme. Ouais. Voilà, on vit pour produire et consommer. Donc la ville des quarts d'heure, c'est ralentir par rapport à une vie dans laquelle.
Est-ce qu'on est en capacité
d'accéder
à ça, vraiment ?
Sûr, on peut le faire.
Vous y croyez, Cédric Simonin, à ça ? Est-ce que l'être humain, aujourd'hui, dans sa vie d'aujourd'hui, tous les jours, qui a des préoccupations et qui s'en est rajouté, est capable d'entendre ça ?
Je vous ramène à la question qu'il a posée Cédric tout à l'heure en parlant du pouvoir politique. C'est ça la beauté du pouvoir politique. C'est-à-dire, quel est mon droit à la cité ? Vous savez, pendant trop longtemps, tous les combats d'un côté ou de l'autre ont été sur les droits à changer les infrastructures urbaines. Plus je fais plus de ça, je fais moins de ça, je fais plus de ceci. En fait, les vrais combats, il n'est pas là. Les vrais combats, c'est les droits à la vie dans la ville. Les droits à la qualité des vies dans la ville. C'est ça les vrais droits de cité. C'est pour ça que j'appelle mon livre « Droits de cité », donc « Droits de police hein, », P-O-L-I-S. Hein, et donc les droits à cette qualité des vies, de la ville-monde, c'est-à-dire de la ville dans laquelle tout le monde court dans tous les sens, à la ville des quarts d'heure, c'est-à-dire une ville même métropolitaine, même hyper-métropolitaine, dans laquelle on puisse vivre à l'échelle humaine, découvrir son quartier, découvrir l'altérité, découvrir... et une ville paisible, dans laquelle on peut respirer, ne pas avoir des voitures à la place donc, qui remplacent les hommes, ne pas être en mode et je ne connais personne. Donc on s'est concilié à notre rythme de vie, mieux utiliser les centaines de milliers de mètres carrés qu'on a construits et développer plus d'urbanité, de civisme, d'altérité.
De lien social.
Et c'est possible. C'est juste une volonté politique.
On a une maire qui est sympa, hein, qui a été élue il y a un an, dans 5 ans. Peut-être que, je ne sais pas, si vous avez un peu de temps libre, venez hein, et transformez Strasbourg.
J'adore venir à Strasbourg.
Et en tout cas, nous, on a adoré vous recevoir. On pourrait vous écouter des heures, franchement. Merci Cédric.
Merci Eric.
Pour cette émission spéciale. Merci à Carlos Moreno.
C'est un plaisir.
Ouais, ça a été passionnant.
Voilà. Il est venu spécialement pour nous, hein, faut
bah
le savoir.
Oui, non, mais bien
voilà.
Sûr.
Voilà. J'adore le nom de cette émission, Igloo. J'ai trouvé ça sympa. Et comme j'étais tout le temps devant, non pas seulement Cédric, mais Top Musique, donc j'ai dit, c'est sympa. Ça donne envie d'avoir des citations, voilà.
C'est donc, sympa d'être passé dans notre igloo.
Voilà. Et une pensée donc, pour Oscar Castro, qui nous a quittés du Covid il n'y a pas longtemps, voilà, qui nous a laissé les cabarets de la dernière chance.
On finira là-dessus. Et peut-être on aura une chanson de Pierre Barou, ça serait bien.
Ah là.
Oui, ça c'est l'émission The Voice, hein. On vous inscrira.
On fera ça. Merci Carlos Moreno.
Merci.
Merci Cédric Simonin. À très vite sur topmusique.fr.